Donc oui, moi on m'a demandé de venir partager notre petite expérience dans l'accompagnement des propriétaires de plans d'eau sur des aménagements et des effacements également. Donc juste vous rappeler rapidement le cadre. Alors, je ne vais pas intervenir finalement sur toutes les données techniques que vous avez pu entendre par Sébastien ce matin, par le contexte également. Vous allez retrouver le bassin de la Glane, donc j'y reviendrai pas, c'est très très bien. Je ne reviendrai pas non plus sur les cyanobactéries puisque vous en avez parlé. C'est des problématiques qu'on rencontre aussi qui nous ont amené en plus de la morphologie à travailler sur les plans d'eau sur ces bassins versants. Le syndicat, c'est une collectivité qui a été créée en 89. À l'époque, elle regroupait 7 communes simplement qui étaient riveraines de la Vienne, et sa seule compétence était l'aménagement finalement d'équipements à vocation touristique, des passes à canoë pour faire simple. Il a beaucoup évolué au cours de ces années pour arriver à 18 communes en 2001 avec la création des communautés de communes, et aujourd'hui nous avons fusionné avec un autre syndicat pour arriver à 31 communes. Il a 3 compétences, donc la restauration des berges, du lit et des cours d'eau. Nous avons en place un contrat de restauration entretien. Alors c'est maintenant les contrats territoriaux milieux aquatiques sur les cours d'eau, les zones humides. Et il a 2 autres compétences. Il s'occupe toujours de l'aménagement de la Vienne pour les activités touristiques. Il y a un programme qui a été monté entre 2002 et 2009 pour l'aménagement de tous les ouvrages, tous les barrages qui étaient présents sur cette rivière. Et également des actions d'éducation à l'environnement à travers le sport. Voilà, j'ai un collègue. Une petite cartographie. Donc, on est aux portes de Limoges. Hein, Ille, Condat sont les communes vraiment à la sortie de Limoges lorsqu'on suit la Vienne. Vous descendez la Vienne jusqu'à la limite du département, ça y est, sur Vienne. On s'occupe du bassin versant de la Glane, dont vous avez entendu parler ce matin pour ses caractéristiques en densité de plans d'eau. Du bassin versant de Laurence, alors on a une convention avec la communauté d'agglomération de Limoges. Et récemment du bassin versant de l'Exette, donc c'est un versant qui est un peu plus au sud. Donc le contrat de restauration entretien, donc c'est notre cadre qui nous permet d'intervenir auprès des propriétaires de plans d'eau. C'est un contrat qui a été signé fin 2008 avec la région Limousin, avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne et avec le conservatoire des espaces naturels du Limousin. Quelques chiffres, une superficie, un territoire qui couvre 670 km², 58% en surface agricole utile. Je ne l'ai pas dit, c'est 68 000 habitants, donc c'est une zone urbaine à semi-urbaine. On a des communes importantes et aussi des communes rurales. Un linéaire de cours d'eau qui varie suivant les bases de données entre 800 et 1200 km. Dans notre contrat, la première tranche, on va dire, c'est 186 km qui ont été contractualisés. Donc on est loin encore d'avoir fini notre travail. On a utilisé les bases de données qui avaient été le travail remarquable qui avait été fait par l'établissement public. 6600 hectares de zones à dominante humide, c'est quand même 10% du territoire. Donc ce matin j'ai entendu 9, nous on est un petit peu au-dessus. Plus de 150 ouvrages transversaux sur les cours d'eau, près de 200 points d'abreuvement direct et près de 1200 étangs qui sont connus, puisqu'il y en a quelques-uns qui vous le verrez tout à l'heure sur des petits bassins, qui sont, quand je dis connus, c'est de l'administration. Nombre de communes concernées par ce contrat, 32. Alors, je vous ai mis ces quelques chiffres pour vous dire que notre travail sur la gestion des plans d'eau, c'est un travail qui se fait en parallèle des autres. Voilà, c'est quelque chose qu'on mène, comme on travaille avec les exploitants agricoles, comme on travaille avec les propriétaires des barrages de moulins. Alors, les objectifs du contrat 5, le premier, c'est restaurer les conditions naturelles d'écoulement des eaux. On travaille encore sur l'enlèvement sélectif d'embac sur des cours d'eau qui n'ont connu aucun entretien depuis la tempête. On travaille également sur la gestion des zones humides avec le conservatoire. Ça passe par de l'acquisition ou des conventions avec les propriétaires. On travaille sur limiter le colmatage du lit des rivières. Donc vous voyez qu'ici, il y a la gestion des plans d'eau. On essaie d'accompagner la lutte aussi contre le ragondin sur notre territoire. On travaille avec les exploitants agricoles pour mettre en place des points d'abreuvement de substitution qui peuvent être des plans d'eau par moment. On essaie d'améliorer la qualité piscicole, donc restaurer le franchissement piscicole des seuils, et puis on travaille sur le transfert des sédiments. Donc vous voyez que c'est un programme d'une trentaine d'actions finalement l'action vers les propriétaires de plans d'eau trouve son intérêt. Alors les masses d'eau qui nous concernent, Donc je vous les présente parce que c'est par rapport à la 1200 plans d'eau sur notre bassin, on a été obligé quand même de prioriser un petit peu notre action et on s'est appuyé finalement sur l'état des lieux de la DCE et les masses d'eau. Donc la première, c'est donc la Glane et ses affluents avec un objectif de bon état pour 2015. Donc vous voyez que toutes les masses d'eau sur notre territoire sont dégradées par rapport au risque par rapport à la morphologie. Avec deux dates, 2015-2021, donc la Glane, le Gramoulou, le Boulou et le Tranchepie. Donc la Glane, Gramoulou, Boulou, Tranchepie, ce sont des TPCE, donc des très petits cours d'eau. Quelques masses d'eau, le Boulou, donc la Vienne, le Grand Rieu et les Raches, ont aussi un risque par rapport à l'hydrologie des cours d'eau. Donc ça, c'est important pour nous. Vous le retrouverez tout à l'heure, je crois que j'ai dû mettre la carte derrière. Voilà leur localisation. Donc le ruisseau des Raches avec son bassin versant, le ruisseau du Grand Rieu avec son bassin versant. Donc ces deux bassins qui, au niveau de la gestion des plans d'eau, sont aussi prioritaires pour nous, où on a une action en direction de ses propriétaires. Et sur le bassin versant de la Glane, donc vous l'avez ici en jaune clair, et des sous-bassins qui ont été identifiés. Par rapport à quelques problématiques et notamment la problématique cyanobactéries sur le bassin versant de la Glane. Entre 2007 et 2010, on a mené des études de suivi de ce paramètre parce qu'il y avait, bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait un peu la même problématique que mon collègue sur le PNR, une réserve pour la production d'eau potable et qui a failli fermer en raison des cyanobactéries présentes. Donc on est remonté sur l'ensemble de ce bassin pour identifier les sources. Et nous sommes notamment remontés jusqu'à ce sous-bassin de la Valette, donc qui est situé ici, qui est quand même quasiment aux sources de la Glane. Et ce bassin-là alimente quasiment tout le cours de la Glane en cyanobactéries avec le sous-bassin de la Vergogne. Donc voilà, donc vous avez la Valette, la Vergogne, qui sont deux aussi bassins un peu prioritaires pour la morphologie, mais aussi parce qu'on avait un problème de cyanobactéries. On essaye, alors je vous ai mis les dates de programmation de travaux dans le contrat, parce qu'on essaye également que l'action qu'on porte vers les propriétaires de syndicats, les propriétaires d'étangs, pardon, soit en lien avec les autres actions qu'on mène, donc sur les exploitants agricoles et les propriétaires de barrages. Donc quelques chiffres de superficie, de nombre d'étangs et de densité. Donc ça fait le lien par rapport à la présentation qui vous a été faite ce matin. Vous voyez qu'effectivement sur le bassin versant de la Glane, donc Valette, Motte, Vergogne, Glane et Oncre, ça c'est 5 affluents principaux de ce cours d'eau, on arrive à des densités de 3, 2, voilà, il n'y a que la Motte qui a une densité un peu plus faible, mais on est généralement autour de 2,5-3. Le bassin de la Glane dans sa globalité, c'est à peu près 2,25-2,3 étangs au kilomètre carré. Sur un bassin qui fait 314 kilomètres carrés, on est à plus de 700 plans d'eau sur ce secteur-là. Alors, on a lancé plusieurs actions, donc qui sont sur le bassin versant de la Valette. On a poursuivi notre travail en fait d'étude. Il y a une thèse actuellement qui est faite dans ces murs à l'ENSIL pour affiner un petit peu nos connaissances sur un plan d'eau en particulier, l'étang de Pijard, qui j'aurais pu vous montrer des photos qui sont à peu près les mêmes que Monsieur Pichot, un étang qui est vraiment très largement eutrophisé, et c'est ce plan d'eau qu'on a identifié comme alimentant quasiment tout le cours de la Glane. J'y reviendrai, trois effacements qui sont prévus sur ce sous-bassin. La Vergogne, on a engagé une dérivation d'un plan d'eau avec un propriétaire et on a mis en place un suivi avec la Fédération de pêche avant et après travaux de cette dérivation pour voir un petit peu avoir amélioré aussi nos connaissances sur l'impact des dérivations sur les cours d'eau en amont et en aval. Également deux effacements qui sont prévus sur ce sous-bassin. Ruisseau de la Motte, alors il n'a pas beaucoup d'étangs, mais par contre il y en a un qui est quasiment à la confluence entre la Glane et le ruisseau. Donc on a travaillé avec ce propriétaire pour réhabiliter la dérivation du plan d'eau qui fait à peu près 900 mètres linéaires. Et ça nous a permis aussi de contractualiser par notre contrat avec le conservatoire une zone humide en amont qui fait pas loin de 7 hectares. Donc il y aura un plan de gestion sur cette zone humide aussi en parallèle de la mise en dérivation du plan d'eau. Sur le ruisseau des Raches, alors nous avons, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, je le passe. Sur le ruisseau du Grand Rieu, je le passe aussi, j'y reviendrai. Donc, petite analyse par rapport à qui va rejoindre ce qui va aussi, vous a été dit ce matin, donc je redéfinirai pas le rang de Strahler. Sur sur ces sous-bassins, vous voyez qu'à peu près, de manière assez régulière, on est toujours à plus de 70% des plans d'eau qui sont sur des cours d'eau de rang 1 ou 2, donc vraiment sur des têtes de bassins versants. On n'a pas retrouvé tous les plans d'eau, ce qui veut dire que ceux qui nous ont un peu échappé sont certainement sur des rangs sur le rang 0 plutôt, voilà. Donc ça veut dire que les 70-80% sur des rangs 0 à 1, c'est ce que j'ai entendu ce matin, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, donc heureusement. Alors un exemple, vous allez voir qu'on a deux démarches en fait. On a une démarche plutôt passive et on a une démarche un peu active. Un exemple de démarche active sur le bassin versant des Raches. On a fait le recensement de tous les plans d'eau sur ce bassin. Il y en a 51. Il y en a 42 qui sont connus de l'administration, plus deux stations d'épuration. Donc vous voyez qu'il en manque quelques-uns. Il y en a 23 qui ont un vrai statut. Puis on retrouve, dans, je ne sais pas si fondantite c'est le bon terme, c'est peut-être antérieur à 1829, des statuts en eau libre, des enclos piscicoles, des piscicultures, et puis ben, la grande majorité qui n'a pas de statut. Donc ça, c'est quelques, je l'ai mis pour agrémenter quelques photos des plans d'eau qui se trouvent sur ce bassin versant. Donc il y a des jolis plans d'eau par contre. Ça c'est une petite carte qui vous localise sur le bassin versant des Raches les plans d'eau. Donc vous voyez qu'en fait il y a une très forte densité de plans d'eau sur le secteur amont. Ce qui est représenté également sur les cours d'eau, c'est la granulométrie des fonds des cours d'eau. Alors on peut faire un lien entre finalement cette densité assez forte de plans d'eau et un lit de cours d'eau qui est vraiment colmaté. Alors c'est pas que ça, parce que ici vous voyez il y a un petit point bleu, ça c'est un ouvrage de moulins qui bloquent en fait tout le transit sédimentaire. Donc effectivement il y a des sédiments qui arrivent par les plans d'eau et par d'autres démarches, mais ils sont aussi bloqués par un ouvrage qui est situé au milieu du lit, puisque derrière vous voyez que j'ai perdu ma flèche, derrière vous voyez qu'on retrouve un lit de cours d'eau qui est plutôt graveleux, voire à rocheux. Donc les équipements, simplement 6 étangs qui disposent d'un moine et 4 une dérivation. On retrouve plus fréquemment des bassins de pêche et des grilles, mais vous voyez que sur les équipements supplémentaires ou complémentaires, ils sont très peu équipés sur ce bassin-là. Alors notre démarche a été également d'essayer d'abord de trouver les propriétaires, donc avec un recensement au cadastre, et de les informer. D'abord, la première chose, donc on a organisé une réunion publique où on a invité tous ces propriétaires avec d'autres usagers, les riverains notamment du ruisseau, et on leur a expliqué tout ce qu'on pouvait faire sur la gestion des plans d'eau, leur distribuant finalement le lot de plaquettes qui sont disponibles, le guide de gestion durable dont vous avez entendu parler, la plaquette de l'établissement public, la plaquette sur qui explique notre contrat de restauration entretien, donc notre cadre d'intervention. Et puis on en profite pour quelques plans d'eau pour leur expliquer qu'ils disposent de la chance d'avoir des espèces envahissantes telles la jussie et le myriophile, voire de cyanobactéries aussi sur quelques-uns. Alors notre méthode plutôt passive, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là, donc méthode active sur le bassin versant des Raches, un peu plus passive sur le bassin versant de la Glane, dans le sens où il y en a vraiment beaucoup, et même si on s'attache au sous-bassin, et qu'on voulait qu'il y ait une démarche d'abord réglementaire par rapport à la régularisation ou l'équipement de ces plans d'eau. Donc en fait, en lien avec la direction départementale des territoires, on s'est accordé à dire que finalement c'était la direction départementale des territoires qui prenait la main en envoyant un document de régularisation à tous les propriétaires du bassin, enfin au moins à 200 propriétaires du bassin. On a eu un taux de retour qui était plutôt bon. Monsieur Lowe dira peut-être les chiffres, je les ai pas en tête, mais de mémoire, c'était 140 ou 150 retours. Donc c'est l'administration qui étudie la régularité du plan d'eau par rapport à son statut et qui donne des prescriptions d'aménagement et ou d'effacement suivant ce que le propriétaire veut en faire. Si il rentre dans notre... c'est pour ça que j'ai inscrit un peu le pouvoir discrétionnaire du syndicat. Si ça rentre finalement dans nos priorités de sous-bassin ou dans nos priorités d'action, il y a une possibilité d'intervention de la collectivité parce qu'elle a signé son contrat de restauration-entretien et qu'elle a mis en œuvre une déclaration d'intérêt général. Donc on organise une visite de terrain avec le propriétaire. On rédige une note d'intention en disant voilà ce qu'on veut faire, une dérivation, un moine, un effacement. On la fait valider par la direction départementale des territoires. Donc il y a une démarche administrative du propriétaire. Ça, je le dirai tout à l'heure, mais le propriétaire reste maître de son équipement. Nous, on l'accompagne, on l'aide, mais on prend pas sa place. Donc c'est lui qui envoie les courriers à l'administration. On lui fournit les dossiers, mais c'est lui qui les transmet. Si on est d'accord, on fait une délibération du comité syndical avec une convention de partenariat et un plan de financement, j'y reviendrai aussi, pour que la collectivité puisse finalement se substituer pas totalement, mais accompagner le propriétaire de manière très concrète dans la réalisation des ouvrages ou dans l'effacement du plan d'eau. Mise en œuvre, réception des travaux, et puis on paye les entreprises, on récupère les cofinancements. Dans les cas étudiés à ce jour, alors c'est un programme nouveau, c'est une démarche nouvelle. On a commencé juste l'année dernière. Les premiers dossiers ont été posés en 2009, le temps que les financeurs trouvons une façon de fonctionner. Les premiers travaux ont pu être réalisés qu'en fin d'année dernière. Le premier, donc sur la régularité des plans d'eau, un seul cas a été mis à jour aujourd'hui, c'est l'effacement qui a été proposé pour ce plan d'eau, puisqu'il a été construit de manière totalement irrégulière. C'est des aides qui sont de l'ordre de 50%. Si le propriétaire souhaite le régulariser et faire des aménagements, on ne l'accompagne pas dans ce cadre-là. Donc on a eu un cas comme ça aussi où le propriétaire, en étant irrégulier, le propriétaire souhaitait le régulariser, il peut le faire, nous on n'est pas là, on n'a pas un rôle de police de l'eau, mais on ne l'accompagne pas. S'il y a une régularité du plan d'eau, alors c'est des cas concrets, c'est pas forcément une règle, mais c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. En général, quand la superficie est inférieure à un hectare, le propriétaire souhaite plutôt l'effacer que l'aménager. En termes de coût, coûte moins cher. Par contre, les trois dérivations, donc deux en cours et une qui va venir, c'est surtout sur des plans d'eau qui sont de plus grande importance, qui ont une superficie supérieure à un hectare. Et donc, c'est des financements de l'Agence de l'eau à 50% et des crédits européens du FEDER à 25% pour accompagner les propriétaires dans la réalisation de ces projets, les 25% restants étant à la charge du propriétaire. Donc, pour la collectivité, c'est une opération blanche, si ce n'est le temps d'animation quand même qui est important. Je vais y revenir aussi. Donc, réalisation de travaux, une première tranche, donc 2011, deux dérivations, 450 mètres et 900 mètres, et un effacement, il y en avait pour environ 52 000 euros. Évidemment, quasiment 80%, c'était pour la dérivation de 900 mètres, qui était un gros chantier, qui a débuté normalement, qui devait débuter la semaine dernière, évidemment, qui a été arrêté. Pour la tranche 2012, pour le moment, 5 effacements qui sont prévus et une dérivation. Alors ça, c'est sur le plan d'eau, c'est l'unique plan d'eau qui est en travers du Grand Rieu, le cours d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt une démarche active, on est allé chercher le propriétaire parce que finalement, c'est un point noir sur le cours d'eau et que le propriétaire était tout à fait favorable à créer ses aménagements. Monsieur Mons l'a bien expliqué, un plan d'eau qui est bien aménagé, plus facile à gérer, et lui, c'est vraiment sa problématique. Il dispose des dispositifs de vidange, mais par contre, il subit finalement tout ce qui se passe sur le bassin versant. Donc les arrivées de sédiments, de feu, donc son plan d'eau est en train de se colmater avec des espèces envahissantes qui s'installent. Quelques exemples de conventions. Et puis on arrive à la phase de réalisation, donc un plan d'eau qui va être normalement effacé sur le bassin versant de la Vergogne. Vous voyez que derrière, on va essayer en plus de remettre le lit dans son talweg, puisque en fait il avait été déplacé en butte ici, donc on va essayer en même temps que l'effacement du plan d'eau de remettre le lit dans son cours d'eau, le cours d'eau dans son lit, c'est plus simple dans ce sens-là. Deux autres exemples de plans d'eau, vous voyez que c'est plutôt des petits plans d'eau de 2000, 2500 mètres, 3000 mètres carrés qui vont être effacés. Un exemple d'un plan d'eau qui a été mis à sec et une digue ouverte de l'effacement qu'on a fait, donc c'est des travaux qui datent de décembre. Quelques autres exemples. Je ne reviendrai pas sur les caractéristiques techniques. Un répartiteur avec une dérivation, un bassin de décantation, sur un plan d'eau qui est situé en tête de bassin versant de la Vergogne. Alors, avec avantage et inconvénient de cette méthode, finalement, c'est que le propriétaire reste maître et responsable de son plan d'eau. Là, on ne se substitue pas à sa responsabilité, on l'accompagne. On tient à ce qu'il y ait un cadrage qui soit réglementaire et suivi. Donc il y a un travail très régulier avec les services de la DDT pour le suivi des dossiers. Donc entre on travaille à trois, le propriétaire, la collectivité et les services de l'État. Je dirais qu'on essaye d'accompagner la démarche passive où on attend un petit peu que les dossiers nous soient redirigés avec une démarche active où on va plutôt chercher les propriétaires. On le fait sur des points noirs parce qu'on essaie quand même de maîtriser la quantité de dossiers. Pour bien faire, il faut au moins 4 à 5 visites. Nous, la collectivité, on est simplement un technicien. Les autres s'occupent pas de ce contrat. Donc ça peut vite, on peut vite passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à ça. Donc on essaye quand même de maîtriser, et budgétairement et en termes de temps, les dossiers. Toutefois, bon voilà, il ne faut pas non plus fermer la porte, saisir des opportunités. Notamment, on a des plans d'eau, des propriétaires qui nous ont contactés pour effacer des plans d'eau, toujours dans une démarche de régularisation, qui ne sont pas forcément sur des bassins qui étaient prioritaires, mais bon, égalité finalement en travers les propriétaires, on essaie quand même de les accompagner. La difficulté aussi, c'est quand même d'essayer de monter des opérations groupées avec des cas particuliers. Parce que les contacts entre les propriétaires seront pas forcément tous au même moment. Il y en a qu'on peut en avoir au mois de janvier, d'autres au mois de juin. Donc par rapport aux clauses des marchés publics, où on doit essayer de monter des dossiers qui ont, s'il y a le même objet de travaux, on doit essayer de les grouper. Voilà, ça crée quelques rallonges de délai, j'ai envie de dire, entre les temps de rencontre, les temps administratifs et les temps des travaux. Quelquefois on va pas assez vite pour les propriétaires, où il va nous falloir un an ou deux ans pour aboutir à la fin du dossier. Quelques retours d'expérience. Alors, bien cadrer les conventions avec les propriétaires pour partager les responsabilités sur le devenir du site après travaux. Alors, on essaie de cadrer ça aussi. On a eu quelques cas où le propriétaire voulait bien effacer le plan d'eau, mais aurait voulu curer finalement le cours d'eau également. Donc, c'est pas forcément dans les directives de la directive cadre. Donc, à travers la convention, on essaie aussi de cadrer sur le devenir du site après travaux. On bien expliquer, alors ça c'est toujours dans le rôle d'information, de communication, le rôle de chacun entre la direction départementale et la collectivité. Le propriétaire, pour lui, c'est l'administration, quoi. Chacun, c'est... nous, on n'a pas un rôle de police de l'eau, donc il faut qu'on explique qu'on est là pour l'accompagner, mais que la démarche réglementaire, c'est pas nous qui allons la faire. Et j'ai senti sur les premiers travaux quand même un besoin de formation technique et juridique des entreprises. Je pense que... Alors, je crois qu'il y en a quelques-unes dans la salle, j'en ai vu dans la liste. Je pense que ça, c'est intéressant en termes de perspective. C'est une demande qui m'a été faite du chef de chantier, en me disant, ben moi, je fais, mais des fois, je sais pas trop ce que je dois faire. Donc, même si on fournit des plans, il aime bien savoir pourquoi il le fait. Et donc, je pense qu'il y aurait un besoin de formation des entreprises à ce sujet-là. Et enfin, bon, quelque chose de plus classique, essayer de suivre les chantiers de manière régulière. Et le retour que j'en ai pour le moment, c'est quand même, on a une bonne perception des propriétaires, parce qu'on essaie d'assurer finalement une mission de service public. On apporte un soutien technique, administratif aussi. On peut être vite perdu dans tous les formulaires qu'on nous demande. Et puis évidemment un soutien financier, mais ça c'est pas moi, c'est l'Agence de l'eau et l'Europe qui ont mis en place ces dispositifs. Voilà. Rapidement, j'essaie d'être concis pour rattraper le temps.